Vous écoutez
RMC.
RMC.
J'en ai marre. C'est fini. Bon, va à la Fashion Week. J'en ai marre de cette équipe qui pompe tout le temps.
Eh hey, monsieur, le carton. Il faut donner le carton.
J'en ai marre.
Jusqu'à minuit,
c'est l'After Foot. Timothée Mémon.
Bonsoir à tous, il est presque 20h, vous êtes sur RMC, c'est l'After, l'émission qui pense déjà tout bas ce que le monde du foot n'a même pas encore commencé à imaginer. On est ensemble jusqu'à minuit, vous et moi jusqu'à 22h. Après c'est Gilbert qui vous accompagnera. Gilbert, bonsoir.
Salut à tous. Bah, la Ligue 1 tout à l'heure, puisque vous allez faire le foot international, ce sera comme ça maintenant le lundi, les drôles de l'âme à 20h. Et la Ligue 1 à 22h, voilà, une sorte de super apéritif en quelque sorte.
J'aime bien ce nouveau format.
Nouveau programme.
Ah ouais, ça te plaît.
Ouais, j'aime bien.
Donc 20h-22h dans le Lame, 22h minuit la Ligue 1. On va parler évidemment des matchs du week-end. Stéphane Guy et Florent Gautreau seront là. Stéphane va parler de Marseille. Florent, lui, veut faire un point sur ses managers qui ont de la poignée de l'autorité, qui changent les choses et ça marche.
Ah, il aime ça, Florent Gautreau.
Il aime bien l'autorité.
Ouais.
Ah oui, mais c'est la mode.
C'est ça.
C'est ça. Donc ce sera tout à l'heure à 22h, plus la saison de Messi. Ça promet apparemment, on aura des infos à vous faire partager. Et puis Monaco qui joue demain face au PSV, les dernières infos bien sûr.
Et bien tout à l'heure Gilbert, nous d'ici 22h, tu l'as dit, on va faire un joli tour d'Europe avec les drôles de dames de l'After. Paulo Breitner viendra nous parler de la première journée de Bundesliga de ce week-end. Julien Laurence reviendra sur la première journée de Première Ligue, riche en rebondissements. Johan Crochet viendra nous parler de la Serie A à quelques jours de la reprise. Et puis on parlera aussi de l'Espagne vers 21h40, du Barça précisément. Et pour m'accompagner ce soir, un homme aussi à l'aise dans l'After que sur le central de Roland-Garros quand ça joue au paddle, mais quand même. Bonsoir Walid Acherchoir.
Salut Timothée, salut à tous, c'est un plaisir.
Vous nous appelez au 32-16, vous réagissez sur Direct Studio. L'After, c'est parti. On vous l'a promis, ils sont là, les drôles de dames. Ce sera comme ça à présent, tous les lundis et le jingle. Ça fait envie, évidemment, tout de suite. On va commencer par accueillir Paulo Breitner. Salut, Paulo.
Bonsoir, mon cher Timothée. Bonsoir, tout le monde.
Salut, Paulo.
Comment ça va, Paulo? T'as vu des buts, hein? T'as vu des buts?
Oui, non, mais ça, c'est...
Ça fait 10 ans qu'il voit des buts.
Hein. Non, d'accord, ça fait 10 ans qu'il voit des buts.
Non, mais on a vu aussi, en plus, un super but de Ben Sebaini, quoi. C'est ça aussi qui est important, oui. Qui fait du bien, d'ailleurs, à Mönchengladbach. Mais c'est vrai que, globalement, en Allemagne, on est très, très content de cette première journée, malgré un Bayern déjà à 350 km/h.
Ouais, on va en parler dans quelques instants. On accueille aussi Julien Laurence pour nous parler de la Première Ligue. Salut, Julien.
Salut, Tim. Salut, Walid. Salut à tous.
Salut, Julien. Les vacances ont été bonnes?
Très très bonne, merci à l'île de rien comme d'habitude, tu le sais bien. Et puis surtout la Première Ligue est de retour, donc on peut être que content.
Ravi, effectivement. Et dans quelques instants, Yann Crochet va nous rejoindre. On va commencer, messieurs, si vous le voulez bien, justement, puisque tu as commencé à l'évoquer, Paulo, peut-être à parler du Bayern. Un Bayern sur lequel tu levais quelques doutes quant à l'absence d'un numéro 9, Paulo. La semaine dernière, je t'ai entendu, je t'ai écouté avec attention. Ouais. Là, sans 9, ça a fait mal, très mal.
Parce qu'en fait, on est extrêmement estomaqué en Allemagne par rapport à la prestation du Bayern de vendredi. On l'avait débriefé avec Walid. En fait, on se posait beaucoup de questions. Enfin, la presse allemande, essentiellement, se posait beaucoup de questions sur la transition du fait de ne plus avoir de véritable numéro 9 au Bayern. Et puis, la prestation bavaroise, polyvalente, polymorphe, tout ce que vous voulez, avec un faux 9, une fois c'est Mané, une fois c'est Gnabry, on ne sait pas trop le rôle de Thomas Müller, explosion de Moussiala au milieu de terrain, fait que les gens sont estomaqués et la presse allemande trouve ça extraordinaire. Et on constate d'ailleurs ce week-end que les autres équipes, il y avait un autre duel entre Dortmund et Leverkusen, sont à des années-lumière de ce qu'a proposé le Bayern vendredi soir à Francfort. Et c'est vrai qu'en fait, quand tu vois la liste des 9 en fait, qui étaient au Bayern, tu te dis toute cette liste qui finit par Lewandowski, mais on pourrait parler de Gerd Müller, Roy Mackay, Luca Toni, tout ce que tu veux, t'as l'impression qu'ils sont c'est obsolète et c'est le passé. Le nouveau Bayern est là. Nagelsmann nous proposait quelque chose et on attendait Nagelsmann au tournant. Il nous a proposé un match formidable. Alors bien sûr, Francfort n'est pas exempt de tout reproche, mais la prestation bavaroise vendredi est quand même assez. Moi, je suis estomaqué, quoi, comme un peu comme tout le monde.
Non, mais c'est ça qui est très intéressant, c'est qu'on est dans l'an 2 de Nagelsmann. Il a eu ses mots, notamment en conférence de presse, en expliquant que cette équipe allait être meilleur sans Lewandowski. Moi, j'étais assez surpris par ces paroles-là. Et sur ces deux premiers matchs, on peut pas dire que qu'il soit dans le faux. Il y a cette pluralité devant. Polo, on en parlait déjà vendredi soir, mais il a raison d'insister là-dessus. C'est il y a plusieurs animations dans l'animation offensive sur les 20 premières minutes. Moi, j'ai compté, mais il y a un 4-3-1-2 et puis après derrière c'est un 4-3-3 et puis après c'est un 4-4-2 à plat. T'as vraiment une faculté à pouvoir devenir illisible côté Bayern Munich, et Francfort au bout de 20 minutes, c'est terminé. Il y a 4-0 à la mi-temps, 4-0 à la 30e, 5-0 à la mi-temps, et puis ça fait 6-1 à la fin. Et encore en deuxième mi-temps, j'ai senti qu'ils avaient baissé le pied. Et voilà, je trouve ça très très fort, moi, cette faculté qu'a le Bayern de faire reset sur quelque chose qui a fonctionné pendant 6-7 ans offensivement. Alors il faudra voir bien entendu en Ligue des Champions, parce que ce sera aussi l'un des enjeux du Bayern de cette saison, mais ça reste excitant de voir une équipe mettre 11 buts à Leipzig et à Francfort, deux équipes qui étaient en demi-finale d'Europa League l'année dernière et une qui l'a gagnée contre les Rangers. Moi, je trouve que c'est bluffant.
Alors, ce que dit Walid est très important, mais moi, je vais tout de suite mettre un bémol. Je disais à peu près la même chose alors que Lewandowski était encore là l'année dernière à la même période. C'est-à-dire que la première partie de saison du Bayern a été extraordinaire, y compris en phase de groupe l'année dernière. Mais il y a eu ce passage à l'hiver qui a été compliqué, où ils ont été justement incapables de faire reset après la trêve hivernale et de repartir, ce qui a conduit d'ailleurs à la défaite contre Villarreal. Mais Villarreal, c'est un symbole, c'est ce qui s'est passé, et donc ça leur a suffi pour gagner le championnat, etc. Mais ils ont jamais réussi, alors que moi je présentais vraiment, il y avait trois équipes qui m'intéressaient vraiment en Europe: Liverpool, Manchester City et le Bayern. Lors des matchs retour, le Bayern n'a pas réussi. Donc en fait là, on va s'emballer évidemment sur ce qu'a proposé, parce qu'encore une fois, Lewandowski, le meilleur buteur européen des 10-15 dernières années, n'est plus là. Donc il y a un potentiel Ballon d'Or, il l'aura pas malheureusement, peut-être qu'il l'aura avec le Barça, ça on verra. Mais le en tant que neuf, c'était peut-être la référence de la dernière décennie, mais il n'est plus là et c'est pas grave. Walid l'a dit, 11 buts marqués avec des buteurs différents, c'est-à-dire même à Francfort, ça vient de partout et c'est assez impressionnant à ce niveau-là. Et moi, je parlais un petit peu du jeu en triangle. Alors encore une fois, Francfort a été loin d'être à son niveau, notamment dans les espaces, parce que ça, ils ont pas fermé les lignes, etc. Mais le jeu en triangle entre Sadio Mané, alors qu'il vient juste d'arriver, Thomas Müller et John Moutiala, c'est quand même assez impressionnant. Mais encore une fois, le juge de paix, ça va être au mois de mars, dès qu'on va commencer.
Mais d'être prêt aussi rapidement, Polo. Et puis il faut pas oublier, tu fais rentrer Leroy Sané sur la deuxième partie de match. T'as De Ligt qui est ta grosse recrue sur le mercato, qui n'a pas démarré. T'as Mazraoui qui n'a pas démarré non plus, Gravenberch non plus. C'est-à-dire que tu quand même la marge qu'a le Bayern avec un joueur comme Lewandowski qui est parti, mais quand tu vois ça d'un œil extérieur, et ça pose la question. Alors je sais que c'est un débat trop prématuré, mais je sais pas si on en parle en Allemagne, Polo, mais moi je suis un peu déçu quand même des équipes qui jouent le Bayern, parce que ça montre, alors s'ils ont fait des performances extraordinaires en Super Coupe d'Allemagne et sur ce premier match, mais de voir qu'une équipe aussi aussi forte qui perd un joueur aussi fort, qui met deux rousses comme ça à deux entre guillemets prétendants au top 4 et voire plus, ça laisse quand même songeur sur les concurrents, Polo, non?
Mais le problème, c'est que aujourd'hui l'analyse, et c'est pas l'analyse du championnat allemand, il est peut-être l'un des plus compétitifs des 10-15 dernières années. Il n'y a pas d'équipe faible, excepté Borum peut-être, qui est un candidat naturel à la relégation. On sort de la pandémie, ça c'est un problème. Mais lorsqu'on parlait du super Bayern il y a quelques années, on va dire Jupp Heynckes, puis ensuite Guardiola, etc. La grande force du Bayern, évidemment, c'est de chaque année recommencer à nouveau à se mettre dans le dur tout de suite, le nez dans le guidon, et à encore une fois être toujours meilleur. Et c'est dur à suivre pour la concurrence. Et comme les autres font des erreurs, le Borussia Dortmund en est l'un des plus grands exemples. Moi, je sais qu'en discutant avec la Ligue il y a quelques années, ils n'étaient pas du tout contents de la transition qu'avait fait le Borussia Dortmund après la finale de Ligue des Champions perdue en 2013, et on va dire, pour simplifier, après la période Jürgen Klopp. Mais ils ont du mal à... Là, ils ont fait un super recrutement théorique. Ils n'ont pas de chance, évidemment, avec la perte de Sébastien Haller pour des raisons médicales, et pour longtemps d'ailleurs. Mais c'est vrai qu'il y a deux choses. Un, le Bayern est sans doute le club en Allemagne qui travaille le mieux, Et ça, c'est pas des questions de moyens. C'est aussi le fait de travailler d'une façon plus intelligente que les autres, plus en avance, etc. Et ensuite, évidemment, c'est le fait que mentalement parlant, c'est un club qui veut toujours tout gagner.
Mmh, et Balak l'a encore. Domination mentale, ouais.
Balak l'a encore répété, qui est un ancien joueur du Bayern, bien entendu. Il l'a encore dit. Il dit, les autres clubs peuvent gagner la Bundesliga, mais le Bayern doit gagner la Bundesliga. C'est pas la même chose. Mmh. Et donc, quand tu arrives, donc, c'est pour ça qu'il y a aussi tant de joueurs qui échouent au Bayern, c'est-à-dire que c'est pas juste la question de la qualité des joueurs. Le Bayern n'achète que des joueurs de qualité, sauf exception des ratés. Il y en a eu dans tous les grands clubs européens. Mais c'est chaque année, du directeur à celui qui fait la pelouse, les mecs ils sont là pour tout rafler et ils se marrent eux-mêmes en parlant de triplé quand ils raflent tout, etc. Une forme de domination où ils phagocytent tout et c'est pas grave pour eux. Alors qu'ils sont les premiers aussi à se plaindre. Ah ben, il faudrait que la Bundesliga soit plus compétitive. Et mais eux-mêmes sont dans cette logique de tout bouffer.
Ouais, c'est surtout ça parce que nous, moi, j'adore ce championnat, mais quand on fait la preview avec Polo il y a 3-4 jours et qu'on se dit purée, qui va pouvoir les. Ah, mais Lewandowski est parti, Nagelsmann, attention, on va voir. Et que sur les deux premiers matchs, bon, après, contre Leipzig, la deuxième mi-temps, Leipzig fait une super deuxième mi-temps et on est beaucoup plus proche d'une égalisation que d'un 5-3 à un moment donné. Mais merde, tu quand même dire, tu prends ces deux matchs-là, le 6-1 face à Francfort, tu te redis purée, bah, cette Bundesliga-là, oui, va encore être à sens unique au bout d'un match, les espoirs sont déjà.
Mais je suis d'accord avec toi, sauf que ce dimanche, c'est pas le Bayern qui est en face de l'IFC. C'est Stuttgart qui est une très belle équipe, qui pourrait très bien aller chercher une place en Europa League par exemple, si ça tournait bien. Et ça fait un partout. C'est donc le problème de Leipzig qui pourtant a gagné pour la première fois. Alors encore une fois, l'excuse de Leipzig, c'est que c'est un club entre guillemets récent, ce qui est pas complètement exact, mais ça c'est pas grave. Parce qu'il y a une histoire à Leipzig, hein, ça arrive pas comme ça. Qu'ils ont gagné la Coupe d'Allemagne, ils sont mentalement ils ont pour la première fois réussi à ramener un club, donc ils sont dans une logique de gagner aussi. Et puis ils ont réussi un super recrutement. Ils ont théoriquement le meilleur joueur de la saison. D'ailleurs, Philippe Lahm lui a fait un petit tacle dans une interview dans le Kicker. On peut faire une saison de classe mondiale sans être un joueur de classe mondiale. Je laisse Philippe Lahm dire ce qu'il pense de l'international français, pardon. Mais ça veut dire que Leipzig a déjà lâcher des points face au Bayern.
Non, donc raison, c'est qu'ils jouent deux fois le Bayern, les mecs.
On sait
ils jouent plus deux fois le Bayern, hein, les voilà, mecs. Donc à un moment donné.
Et que le Bayern va forcément caracoler en tête en laissant très peu de points sur la route et que si dès la première journée t'en lâches, il va déjà falloir courir.
Il a raison, Paulo.
On va continuer à parler de l'Allemagne, on va aller en Angleterre aussi. On va d'ailleurs saluer Johan Crochet. Par contre, on ne salue pas tes indélicats voisins.
Ah ouais, exactement.
Sacrée histoire, ça.
Ouais, exactement. Pas pu venir avant et par mes propres moyens, puisqu'un voisin est tombé en panne dans la sortie du garage.
Et ben voilà.
Donc voilà, personne ne peut entrer.
Bon,
personne
on
peut
lui souhaite sortir. Bon courage quand même s'il nous écoute. Nous, on revient dans un instant pour continuer à parler de l'Espagne, de l'Italie, de l'Allemagne et de l'Angleterre.
RMC. L'Afterfoot. Timothée Mémon.
20h13, on est de retour dans l'after, c'est jusqu'à minuit. À partir de 22h, vous serez avec Gilbert Bribois. D'ici là, on est avec les drôles de dames. On vient de parler assez largement de l'Allemagne. On y reviendra, Polo, avec grand plaisir. Il y a pas mal de choses à dire. Je voulais faire un saut en Angleterre parce qu'entre la Bundesliga et la Première Ligue, il n'y a qu'un pas. Un pas qu'a franchi Erling Haaland, mon cher Julien Laurence, il a enfin, on va dire enfin, je dis enfin, après un deuxième match, parce qu'il avait un petit peu déçu lors du Community Shield, il a porté Manchester City pour la victoire de City ce week-end, Julien.
Ouais, c'est vrai qu'il les a inspirés contre West Ham hier, dimanche après-midi. Un stade, par exemple, où ils ont eu du mal par le passé. On se rappelle, il y a deux mois, quand ils ont été menés 2-0 après une heure de jeu à West Ham, justement, alors qu'ils étaient au coude à coude avec Liverpool pour le titre et qu'ils auraient pu le perdre à ce moment-là et qu'ils avaient finalement réussi à faire match nul de but partout. Et ben là, il n'y a pas eu du tout la même opposition déjà et puis ni le même résultat non plus parce que Erling Haaland a effectivement été c'était le héros de cette rencontre-là. C'était un petit peu le Haaland show parce qu'on était tous là pour le voir justement, pour voir si après les quelques occasions manquées au Community Shield le week-end dernier contre Liverpool, on était un petit peu resté sur notre faim forcément parce que Darwin Núñez lui avait marqué et Haaland s'était créé des occasions. Il n'avait pas été mauvais non plus, mais c'est vrai que les Anglais qui aime beaucoup critiquer très vite, en tout cas, surtout les nouvelles recrues et surtout les joueurs avec un grand nom comme celui d'Haaland, avait critiqué assez vite finalement. Donc on était tous là pour le voir, pour voir ce que ça allait donner. Et sincèrement, on n'a pas été déçus. Il a marqué deux buts, le premier sur penalty, mais un penalty qu'il va chercher lui-même avec un très bon appel en profondeur. Et cette fois, Gundogan lui met un très bon ballon, ce qu'on n'avait pas forcément vu contre Liverpool il y a une semaine. Et puis surtout, le plus beau, c'est le deuxième, parce que la relation De Bruyne-Haaland, on la voit déjà là, très tôt dans la saison, c'est que c'en est que les prémices. Et pourtant, l'appel est fantastique, le ballon en profondeur de De Bruyne est fantastique, la finition est parfaite d'Haaland. Et comme le disent les Anglais aujourd'hui, je pense qu'on va très souvent peut-être voir cette combinaison-là et ce duo-là sur les terrains de Première Ligue et de Ligue des Champions. Donc très positif pour Haaland, bien sûr, pour City, même si Guardiola l'a rappelé très justement à la fin du match en disant, écoutez, le week-end dernier, vous m'avez dit qu'il était bidon, et puis là, vous me faites croire que c'est déjà Thierry Henry et le Brésilien Ronaldo. Donc que tout le monde se calme, et il avait tout à fait raison, même si je pense qu'Haaland aurait pu marquer 3 ou 4 buts facilement contre West Ham. Son père Alfie avait fait le voyage avec toute la famille, il était dans les tribunes avec les supporters de City.
Il l'a dit en zone mixte. Julien, il a dit en zone mixte qu'il était déçu parce que il a eu une troisième grosse occasion sur l'inservice de Gundogan et qu'il était pas satisfait.
Il avait été shitty.
Ouais.
Ouais, il a dit merdique, et puis après il a dit putain en plus pour à chaque fois on le dit, donc Sky a dû biper les promos, ouais. Forcément à cette heure-là en plus. Mais ce qui était marrant, c'est qu'à la fin du match, on a donc eu les supporters de City qui avaient fait le déplacement, donc les 3000, enfin ils étaient 2500 je crois, sur la City, qui ont chanté pour Alfie Haaland, donc le papa d'Erling, en plus d'Erling, donc puisque les deux étaient un sur le terrain et l'autre dans les tribunes. Donc c'est vrai que c'était assez amusant, et je pense qu'on l'a dit souvent avec Polo, enfin de toute façon t'as pas besoin d'être un devin pour le savoir, mais c'est à mon avis le début d'une très grande aventure et très belle histoire d'Erling Haaland et de Manchester City et en Première Ligue.
Polo, Julien, le Bayern qui joue sans neuf, City qui joue avec un neuf, c'est un peu le monde à l'envers, non ?
Ah ben je trouve ça exceptionnel. D'ailleurs, il va falloir suivre ça tactiquement parlant, parce que alors la première chose, c'est que moi j'ai beaucoup rigolé quand on a critiqué le cyborg norvégien après son Community Shield à moitié raté. J'ai regardé la rencontre contre West Ham, et ce qui est marrant, c'est que le deuxième but arrive au moment où West Ham tente de pousser un petit peu. C'est-à-dire que c'est pas un but où Manchester, à ce moment-là, où Manchester City domine complètement. Ça part de l'arrière, si je me rappelle bien. Et ensuite De Bruyne, évidemment, le West Ham est sur le reculoir à ce moment-là. Et donc c'est là où on voit toute la palette du Norvégien. C'est-à-dire c'est pas juste l'attaquant de surface. C'est là où on va être très très surpris, y compris, je pense, en Première Ligue, où ça va être le premier des défenseurs pour l'équipe de Manchester City et celui qui va attendre le ballon à la fin de l'action pour finir pour marquer le but. Et c'est là où on se rend compte du volume du Norvégien. C'est pas juste le buteur qu'on nous présente évidemment avec ses statistiques. Résumer le Norvégien à ses statistiques, je pense que c'est l'une des plus grosses erreurs qu'on fait par rapport à ce joueur, parce que lorsqu'on voit son volume de jeu, la façon dont il court, alors évidemment la condition sine qua non pour qu'il bosse pour l'équipe, c'est que le ballon lui arrive quand lui il doit marquer, hein. C'est ça aussi, pour ça que j'étais pas tout à fait d'accord sur le fait que est-ce que le Norvégien pouvait s'adapter à Manchester City quand t'as un joueur
de cette qualité-là. Grealish, Polo. Hashtag Pardon ? Jack Grealish, hein. C'est-à-dire que Jack Grealish qui touche 18 fois le ballon avant de lui donner, il va falloir qu'il la donne un peu plus rapidement.
Non, mais ça va être, c'est ça qui est assez impressionnant. C'est pour ça que moi j'étais pas tout à fait d'accord sur le canton lorsqu'on disait que est-ce que le Norvégien devait s'adapter à Pep Guardiola et ceci, cela. Non, je pense que c'est du win-win sur cette question-là et qu'ils sont assez intelligents tous les deux pour faire que c'est encore mieux pour Manchester City. Et tu as tout à fait raison. Le fait qu'on ait maintenant un neuf pour quelqu'un qui a cherché à promouvoir le faux neuf pendant des années, notamment à Barcelone, est assez extraordinaire quand le Bayern par exemple eux seraient peut-être en train de passer comme un faux neuf. Mais en tout cas n'oublions pas que le mercato n'est pas fini non plus. J'ai du mal à croire quand même que le Bayern n'aille pas chercher un vrai neuf d'ici la fin du mercato.
Au-delà d'Haaland, Julien, ce qui est étonnant sur ce match là je ne sais pas si tu t'es fait la même remarque, c'est surtout le rôle de Walker qui jouait presque dans le double pivot avec Rodri avec le ballon, et j'ai trouvé que Gundogan et Kevin De Bruyne étaient très très haut et très très proche de Erling Haaland. Et on l'avait vu avec le Bayern, Guardiola le faisait souvent avec Philippe Lahm, mais là avec Manchester City c'est quelque chose d'assez frappant, parce que c'est la Walker d'habitude il essaye d'utiliser la profondeur pour couvrir Ruben Dias notamment, et là il était vraiment vraiment dans le cœur du jeu. Est-ce que, je sais pas s'il s'en explique en conférence de presse, mais je trouve que ça a été l'une des clés pour gagner cette rencontre, parce que on l'a vu sur le premier but, c'est Gundogan, sur le deuxième c'est Kevin De Bruyne qui le lance parfaitement, et c'était une chose assez intéressante à suivre pendant le match.
Ouais, mais Cancelo aussi, c'était, enfin je trouve qu'on avait,
ouais, on a, ouais, d'ailleurs, et des fois on avait mis 2000 euros layer avec Cancelo ou Walker devant Rodri.
Ouais. Ouais, alors après, Gundogan, ça joue quand même un peu plus haut. Mais après, ouais, c'est un petit peu au retour finalement de quand Pep avait Agüero. Et je pense qu'il s'en est un petit peu écarté quand il n'avait pas de vrai numéro 9. Et maintenant, avec un vrai numéro 9, tu peux effectivement refaire jouer tes latéraux un petit peu plus à l'intérieur du jeu, au corps du jeu, comme il avait pu le faire à un moment. Et effectivement, changer un petit peu comment tu joues. Moi, je suis un peu plus inquiet pour Riyad Mahrez, par exemple. Pour revenir sur Jack Grealish, effectivement, qui touche beaucoup le ballon avant de la donner à Haaland, je me demande si à un moment, le fait que Riyad était sur le banc et qu'un Phil Foden, par exemple, qui peut lâcher le ballon plus rapidement, on l'a vu le faire, on l'a vu le chercher beaucoup, Haaland aussi, dans la rencontre d'hier, si c'est peut-être aussi ce qu'on verra un petit peu plus cette saison, je sais pas.
Ça va tourner énormément.
Ça va tourner, mais après, il y aura forcément des joueurs qui s'entendront beaucoup mieux et qui joueront beaucoup mieux avec Haaland que d'autres. C'est obligatoire, donc à voir ce que ça va donner. Mais
il y a le petit Julian Alvarez aussi. Il y a le petit Julian Alvarez qui peut jouer sur un côté aussi, donc il va avoir. Il était rentré contre Liverpool comme ça.
Trop de relations entre lui et Haaland par rapport, tu vois, à un créateur plus. Mais j'étais très déçu par West Ham en revanche, parce que par exemple le deuxième but, aussi beau qu'il soit dans sa conception et dans la relation encore une fois entre De Bruyne et Haaland, mais tu peux pas donner autant de temps à Rodri. Ah mais Rodri, il a même pas besoin de regarder autour de lui avant de recevoir le ballon. Il sait très bien qu'il est tout seul. Il attend de se retourner, de donner le ballon à De Bruyne qui lui aussi est tout seul. Il y a personne vient, personne est assez agressif pour monter sur le porteur rapidement.
Le pauvre Scamacca en deuxième mi-temps là. Wow.
Ah ouais. Bon courage mon pote. À West Ham, mais contre Liverpool, on en parlera tout à l'heure. Est-ce que West Ham a fait contre City? Il y a une équipe qui a laissé jouer l'adversaire et une autre qui, tu vois, donc.
Justement, Julien, on parlait du Bayern qui avait déjà pris les rênes de la boulie. Pour ce qui est de l'APL, le principal adversaire a priori, en tout cas l'un des principaux de City, ce sera Liverpool qui a déjà laissé échapper des points. Alors oui, Darwin Núñez continue de donner satisfaction. Reste que ils se sont quand même bien fait bousculer.
Ouais, complètement. Très surprenant d'ailleurs parce que
très belle équipe,
ils avaient été tellement bons contre City qu'on s'attendait vraiment pas à ça à Fulham, même si on se disait que Fulham allait sûrement en tout cas pour le premier quart d'heure la première demi-heure que Fulham allait vouloir se battre, allait vouloir être agressif. C'était des promus, c'est à domicile, c'est un match contre Liverpool au moins, etc. Donc voilà. Mais on se disait qu'à un moment, quand même, c'était pas possible que Liverpool passe au travers comme ils l'ont fait finalement en première période. C'était assez incroyable de les voir aussi apathiques, sans intensité, sans idée. La première période de Mo Salah, en termes d'être anonyme et
mais complètement il a pas un tir.
Incroyable. Mais ça veut dire que je crois qu'il touche pas le ballon dans la surface adverse quasiment.
Non.
C'est hallucinant. Et donc que Fulham ait réussi à faire déjouer autant Liverpool si tôt dans la saison, alors qu'on les avait vus très bons encore une fois contre City il y a une semaine avant, le week-end d'avant. C'est vrai que ça a surpris beaucoup de monde. Il a fallu que Darwin entre et soit vraiment le sauveur avec un but, même si le but, bon, il a
beaucoup de réussite.
Beaucoup de réussite. Et après sa passe d'aise, qui elle aussi a beaucoup de réussite pour Salah. Mais quand même, on a vu un Van Dijk très en difficulté face à Mitrovic, qui est pourtant qui est un très bon attaquant. Mais
bah, il a concédé un penalty. Van Dijk, on a l'impression qu'il se fait effacer d'une manière dont on l'a jamais vu se faire effacer.
Après Mitrovic,
c'est la première fois.
Mitrovic sur son dribble, il est un peu bizarre son dribble. C'est-à-dire que j'ai l'impression que Van Dijk a été surpris par le côté un peu rustre de Mitrovic sur l'action.
C'est la première fois que Van Dijk en première ligue se fait dribbler et commet une faute comme ça dans la surface. Donc c'était vraiment inhabituel. On a vu un Trent Alexander-Arnold qui fait une erreur sur le premier but dans son marquage et comment il a défendu sur Mitrovic, même si dans le jeu aérien il n'y a pas photo non plus.
Au milieu de terrain surtout, Julien, parce que Thiago Alcantara, il a été en grande difficulté et je trouve que Palinha côté Fulham a fait un super match. Le Portugais, au duel, il a été très bon.
Ouais, très dur au duel. Il a très bien lu le jeu dans les interceptions. Il a cassé beaucoup d'attaques de Liverpool. Et ce qu'on craignait finalement le plus aussi, Walid, c'est que Thiago est déjà blessé. Et ça veut dire que dans des positions où t'es pas allé recruter cet été parce que t'as mis beaucoup d'argent sur Darwin et qu'il te restait plus rien après pour aller par exemple essayer de chercher, je sais pas moi, un Tchouaméni ou même un Bissouma, et ben tu t'es quand même laissé assez léger finalement. T'as que des jeunes comme Harvey Elliott.
Qui a fait une bonne entrée quand même.
Carvalho.
Mais ça sera pas suffisant, je pense. Mais il a fait une bonne entrée.
Bonjour, mais voilà, à un moment, à part Fabinho, il te reste Anderson. Vous savez à quel point je suis pas un grand fan de Jordan Anderson, surtout à son âge maintenant.
Bon, match a été
et moi, je suis un petit peu inquiet pour le milieu de terrain de Liverpool.
Merci beaucoup, Julien. On revient te voir dans un instant. On va marquer une toute petite pause et on va aller en Italie. Tiens, on parlait des grandes Europes, des très grandes Europes. Liverpool, Manchester City, on a parlé du Bayern. On va aller se pencher sur le cas de la Juve qui prépare sa saison de manière délicate. C'est le moins qu'on puisse dire. À tout de suite.
RMC. L'Afterfoot. Timothée Mémont.
20h27, on est de retour dans l'after. On est ensemble avec les drôles de dames jusqu'à 22h. Ensuite, ce sera avec Gilbert jusqu'à minuit. On voulait s'intéresser avec toi, Johan Crochet, à l'Italie. On a parlé du Bayern, on a parlé de City, on a parlé de Liverpool. On va continuer à faire notre tour des très grands d'Europe. La Juve, qui démarrera évidemment la semaine prochaine son championnat de Serie A, mais qui a lancé sa saison, en tout cas qui a fini sa préparation de manière cataclysmique.
Oui, une défaite 4-0 contre l'Atlético. Alors un match qui devait jouer en Israël et puis finalement qui a été rapatrié entre guillemets au centre d'entraînement de la Juve pour les tensions qu'on connaît en Israël. Honnêtement, moi au bout d'un moment, je sais plus quoi dire quoi. C'est-à-dire que on peut venir chaque semaine et répéter la même chose. C'est-à-dire que il y a pas de jeu, il y a pas de cohésion d'équipe, il y a pas de pressing, il se passe rien, il y a aucune occasion, un tir cadré. Max Allegri à la fin du match. C'est toujours intéressant d'entendre ce qu'ils ont à dire, même si parfois, bon, c'est toujours un peu aléatoire et toujours un peu robinet d'eau tiède. Mais le problème de Max Allegri, c'est que quand on lui parle de jeu, il nous répond état d'esprit et mentalité.
Ah, c'est Max la gagne.
Ouais, voilà, c'est ça. Et... Mais il fait le coup à chaque fois. Et donc, sauf que là, c'est en train de moins bien passer. Je lisais un peu la presse italienne ce matin. Dans la Gazzetta, il y a des éditos. Dans Tuttosport, il y a des éditos. Tout le monde en train de se dire que la Juve est dans le brouillard, que ça va pas.
Ah, ça marche plus, Max Lagagne.
Voilà, ça marche plus.
Il a plus la recette, il a plus le.
C'est ça, il a peut-être plus les joueurs. Ouais, parce que voilà.
Vlahovic, c'est pas suffisant.
Non, c'est un petit attaquant qui marquait pas trop en Serie A.
Mais normalement, c'était le retour de Max Lagagne, normalement.
Et puis Walid Kulusevski, il était pas prêt, quoi.
Il était pas prêt,
il est allé dans un petit championnat, là, Kulusevski.
Il a pas fait un match incroyable contre Southampton ce week-end.
Et en fait. C'est vraiment une équipe. Alors ok, la mentalité elle est passive, mais au bout d'un moment t'as envie de lui dire, mais peut-être que si t'étais un peu plus joueur, que tu donnais un peu envie de jouer, que tu construisais une équipe avec un système de jeu un peu plus agréable, proactif, offensif, etc. Peut-être qu'il serait un peu plus enthousiaste aussi sur le terrain. Je pense que ça va avec. En fait, tu veux pas demander à Vlahovic qui voit 9 ballons lui arriver sur la tête ou dos au but à 50 mètres du but d'être enthousiaste. Je regardais le match et en fait pendant le match il y a eu plusieurs ballons de Bonucci à Vlahovic direct. Mi-hauteur, on va dire, pas forcément que dans le jeu aérien, mais poitrine ou contrôle de but à 50 mètres du but. Et en fait, une image qui m'est venue, je sais pas pourquoi ça m'est venu comme ça, j'ai pensé au Visiteur, le célèbre film. Vous savez, quand Godefroy de Montmirail, il balance des bouts de viande à Jacouille qui est par terre. Et j'ai l'impression que Bonucci, il balançait des ballons comme ça à Vlahovic, il lui disait, tiens, amuse-toi deux minutes. Voilà, tiens, vu que tu touches pas le ballon, tiens, je te vois un parpaing, et puis essaye de jouer avec.
Fais des miracles.
Voilà. Et très sincèrement, je pense que ça peut pas continuer comme ça. Au bout d'un moment, je pense qu'il va perdre ses joueurs. En interne, moi, j'ai des messages qui me disent que ça commence à crisper pas mal, le jeu d'Allegri. Pas trop la personnalité d'Allegri, ouais. Mais le jeu, ça commence à crisper tout le monde. On sait qu'il y a des dirigeants qui étaient pas pour le retour d'Allegri, que c'est une décision d'Agnelli.
Ah, il voulait le retour de Max Lagagne. Il voulait regagner le championnat.
De son ami Max Lagagne.
Exactement. Donc, normalement, on va lui faire confiance.
Donc, il faut à un moment donné que ça tourne, que ça change, que le problème, c'est que est-ce qu'il en est capable? Je sais pas. Allegri, il a pris une pause de 2 ans. Il est revenu, c'était le même. T'as des entraîneurs qui font une pause d'1 an, qui en profitent pour aller voir des matchs.
Le football moderne,
du Sud, un peu partout, au Danemark, je sais pas, en Italie, en Angleterre.
Faire évoluer ses idées.
Exactement. Se confronter un peu à ce qui se fait ailleurs, etc. Il y avait eu une interview avant qu'il redevienne entraîneur à Sky, je me souviens, un soir, avec Caressa, avec Bergomi, avec tous ces mecs-là, en disant, oui, j'ai profité de ce temps-là, je serais peut-être pas le même, etc. Ah bon, d'accord. À part venir en cravate avec sa chemise blanche, il avait pas montré grand-chose. Et non, ça va pas. Et en plus, quand ça va pas, ça va pas. C'est-à-dire que là, t'as Chesney qui est absent 3 semaines, qui s'est blessé, problème à l'adducteur. Donc Pogba est encore absent. Première journée, Rabiot sera pas là, alors. Il sera peut-être même plus là tout court à Turin, on verra, mais quoi qu'il arrive, il sera pas là lors de la première journée contre Sassuolo. Il y a d'autres blessés, il y a Bremer qui, quand vous regardez le match hier contre l'Atlético, l'agressivité de Bremer au Torino, qui en a fait le meilleur défenseur central l'année passée en Serie A, elle n'est pas là. Alors le système de Juric est très différent aussi du système d'Allegri, il ne demande pas la même chose, Mais quand même, il y a une différence entre le ce que j'ai vu du Bremer de d'hier et le Bremer habituel. Bref, le problème c'est le jeu, le problème c'est les joueurs. Mais pourquoi les joueurs? Mais parce que personne progresse dans ce système-là. Avec ce jeu-là, qu'est-ce que vous voulez progresser? Kulusevski, c'était pas assez bon. Maintenant, il éclate tout en Première Ligue. De Ligt, c'était tout juste assez bon. On verra s'il prend Bayern. Mais je suis assez confiant.
Mettre en concurrence avec Rugani à l'époque.
Ouais, voilà, c'est ça. Ouais. Bah, rappelons quand même qu'en début de saison dernière, Chiesa et De Ligt font des passages sur le banc parce qu'ils sont jeunes
c'est pas assez.
Et faut encore parce que le truc d'Allegri aussi
matures.
C'est
faut des joueurs matures
et puis Walid t'as le fameux truc le maillot de la Juve il pèse ce qui pèse je pense surtout c'est de se dire qu'on joue à 80 mètres du but adverse, ça je pense que ça pèse dans la tête des joueurs, mais donc voilà, je pense que il va falloir se réveiller parce que sinon il y a des clubs qui proposent autre chose en Italie. Je pense au Milan, à l'Inter, même à Naples.
Mais même Mourinho avec la Roma.
On verra ce que ça va proposer. Ouais,
j'ai envie d'y croire moi cette année.
Pourquoi pas la Lazio de Sarri, voilà, la Fiorentina d'Italiano, il y a des très bonnes choses. Donc va pas falloir perdre de temps. Alors la chance d'Allegri, c'est qu'il a un propriétaire qui a décidé d'investir massivement parce qu'on a quand même eu Di Maria, on a quand même eu Pogba. Là ils sont en train de faire Kostic.
Bremer,
exactement. Ils sont en train de faire Kostic. Ils sont en train de voir ou Paredes ou Fratesi encore au milieu de terrain, plus peut-être encore un attaquant. Donc là, en termes de mercato, voilà, mais là, on est vraiment sur du très costaud.
Là il y a plus d'excuses. Il va avoir des exigences, Yohan, parce que je suis désolé, mais aujourd'hui, tu parlais du mercato, mais ils ont pris Vlahovic en janvier, qui était le numéro 9 convoité par beaucoup beaucoup d'équipes en Europe. Tu l'as dit, mélange d'expérience, des joueurs qui voulaient. Pogba 29 ans, Di Maria 34-35 ans, Paredes s'il arrive, Bremer qui est confirmé en Serie A. Je suis désolé, mais si l'année prochaine parce que lui il parle que de victoire, c'est la victoire ou rien. Donc s'il n'y a pas le retour de ce Scudetto, ce sera quand même un pari vraiment vraiment raté de la part d'Agnelli. Le jeu on verra, parce que de toute façon maintenant on s'est fait une raison sur la Juve, mais aujourd'hui avec le retour de Chiesa qui va sûrement revenir après sa blessure, Locatelli, parce qu'on a complètement oublié le joueur magnifique qu'il était à Sassuolo, même si tout n'a pas été mauvais, mais aujourd'hui il va falloir faire progresser ses joueurs. Arthur qui est arrivé il y a deux ans du Barça, il va falloir les faire progresser. Zakaria, je parle sous le contrôle de Polo, mais à Gladbach, moi en Ligue des Champions, à chaque fois que je le voyais, ou même avec la Suisse, c'est un joueur de grand talent. Tous ces mecs-là, là, tous ces prospects, il va falloir les faire progresser à la Juventus. Et cette année, moi en tout cas, je vais être encore plus exigeant avec Max Lagagne, parce que s'il ne gagne pas, ça va être compliqué.
Rabiot, justement, tu disais qu'il pourrait ne pas être là pour la première journée. Ce sera d'ailleurs lundi prochain à 20h45 pour la Juve face à Sassuolo, et ce sera à domicile si je ne m'abuse. Ouais.
D'ailleurs, Sassuolo qui a perdu de manière très étrange contre Modène en Coupe d'Italie ce soir.
Eux, offensivement, ça va être dur.
Sans Scamacca, sans Raspadori, sans Djuricic aussi qu'on oublie, qui est parti également. Ça va être très très dur. On va en parler tout à l'heure.
Boga qu'ils avaient perdu aussi pour le mercato de janvier.
Rabiot qui quitte de son avenir.
Je parle sous le contrôle de Julien. Je crois que c'est The Athletic qui a sorti le. Manchester United.
Voilà, c'est ça. Il fait partie de la liste pour le plan B après Frankie de Jong, qui, quand même, à un moment, faut lâcher l'affaire. À un moment, je pense qu'il faut laisser tomber. Hein.
Mais même en termes de profil, déjà, des fois, on s'interroge dans le recrutement, mais tu passes de Frankie de Jong à Rabiot.
Ah non, mais.
Je parle en termes de qualité, mais rien qu'en profil de joueur.
Ah non, mais c'est incroyable. Mais non, mais ça montre aussi tous les problèmes qu'il y a à Manchester United, qu'il y a toujours d'ailleurs, même avec un nouvel entraîneur. Qui avait lui l'habitude, tu le connais bien, Yo, d'avoir une vraie structure autour de lui, et là, le pauvre, il est abandonné à lui-même, c'est le bordel autour de lui.
Après, quand tu cibles Arnautovic offensivement, c'est que je pense qu'en termes d'attractivité sur ce mercato, là, il y a Šeško qui était convoité, qui va sûrement aller à Leipzig. J'ai l'impression que personne veut aller à Manchester United, en fait.
Non, mais c'est pas ça. Je pense que quand il n'y a pas de structure aussi, tu te retournes forcément vers des gens que tu connais, des joueurs que tu connais, parce que il y a rien autour de toi qui va te proposer d'autres noms, d'autres profils, d'autres alternatives. Donc c'est un petit peu logique aussi.
C'est toujours intéressant de voir qu'il y a des joueurs à relancer qui se retrouvent dans des clubs qu'il faut relancer. C'est toujours bizarre, parce que Manchester United est dans une crise qui commence à être un peu longue, et on poste des joueurs qui n'ont pas forcément une référence, parce que Rabiot, ça fait quand même des années qu'on en parle. Il est titulaire, moi je regarde pas tous les matchs de la Juve, donc je peux pas le juger sur
ses
performances. Mais moi je préférerais, quand t'es Manchester United, tu dois aller chercher que des joueurs qui sont tout en haut pendant un moment, quoi. Quitte à vraiment sortir le chèque, etc.
Un mec comme Bellingham à Dortmund, pourquoi ils le sortent pas, United? Je comprends pas.
C'est compliqué, hein. C'est très cher déjà.
C'est très cher. Mais ils font quoi, Chelsea, Julien? Ils font quoi? Ils vont mettre 100 millions sur Fofana, ils vont mettre 110 millions sur Cucurella. Mais à un moment donné, si personne veut venir, faut surpayer. Si c'est pour se retrouver avec McTominay et Fred encore cette année, je suis désolé, mais si tu veux passer un cap, il faut mettre l'argent. La première ligue, c'est ça. Et s'il faut sortir 80 ou 100 millions sur Bellingham, faut les sortir. Je suis désolé, moi. Si c'est pour se retrouver avec Arnautovic devant comme solution, si Ronaldo part, faudra pas après s'étonner des résultats.
Antoine, ouais, non, mais même un Declan Rice, hein, pour moi, c'est. Il faut aller chercher même maintenant, mais effectivement, il faut mettre l'argent.
Antoine, supporter de la Juve, est avec nous. Il nous a appelé au 32-16. Salut Antoine, comment ça va?
Bonsoir messieurs, vous allez bien?
Salut, très bien. Et toi?
Salut Antoine.
Tout roule?
Oui.
Ouais. Tout va bien?
Oui, c'est gentil, merci.
Ok, super. Non, je voulais juste être sûr, hein. Et puis savoir être sûr aussi que tu nous entendes bien.
C'est lui Antoine qui nous a appelé lundi dernier déjà?
Oui, exact.
Ok, donc un Antoine déprimé, ça n'a pas dû s'arranger, je pense.
Antoine inquiet.
Non, depuis hier, c'est catastrophique. C'est encore pire. Non, parce qu'on a toujours pas de jeu et le match d'hier contre l'Atletico nous a bien démontré que une charnière centrale avec Bonucci, ça passerait pas, que avoir Danilo sur les ailes avec Alexandro, ça ne passera pas, que d'avoir un milieu de terrain inexistant sans jeu, ça ne passera pas, et Vlahovic n'aura pas de ballon et il tirera, il aura une occasion ou deux par match, et la saison risque d'être très compliquée encore aujourd'hui, cette année. Donc malheureusement, aucune bonne nouvelle pour nous les Juventini. Vraiment, cette saison, ça va être catastrophique.
Mais tu sais Antoine, je suis d'accord avec toi sur l'analyse, notamment en défense, mais tu sais, tu peux combler des qualités individuelles un peu inférieures par un collectif qui travaille très bien ensemble, qui a un système de jeu qui va favoriser leurs qualités.
Mais il faudra un meneur d'homme. Mais il faudrait changer Allegri du coup.
Ou plus qu'un meneur d'homme, en fait, il faudra un entraîneur. C'est surtout ça, en fait. Entraîneur. Tu vois, c'est parce que je suis désolé, t'as des équipes qui ont pas des meilleurs défenseurs qu'à la Juve, qui s'en sortent mieux, qui jouent mieux et qui exposent moins les faiblesses, merci pour le mot, de certaines individualités, en fait. C'est ton système qui doit pouvoir te permettre de pallier à ces faiblesses-là. Et le problème, c'est que quand t'es à la Juve et que t'es défenseur, t'es totalement exposé. Parce qu'Allegri, on disait ça, souviens-toi Antoine, la semaine dernière, je disais, vous commencez à connaître ma sensibilité du foot, Allegri, ça me plaît pas. Mais à la limite, un système défensif bien fait,
cohérent,
et à la limite qui marche, tu peux rien dire. Okay. Tu vois, c'est pas.
Sauf qu'on
c'est
peut
pas ce que t'aimes, mais au moins c'est bien fait.
Défensif. Mais c'est on ce peut qu'on... pas avoir un système défensif fonctionnel. Parce que si on. Le système défensif fonctionnel, ce serait d'avoir un 3-5-2. Sauf que si on met un 3-5-2, on ne peut pas avoir Di Maria devant. Et Di Maria a été acheté pour jouer une année. Si on passe à 4, on est obligé d'avoir Alex Sandro à gauche, catastrophique. À droite, on aura soit Cuadrado, très bon mais vieillissant, soit on aura Danilo qui est une imposture. Au milieu, on a Bremer qui est très bon mais qui ne sera pas valorisé par un Bonucci qui est très vieillissant et qui a été très mauvais, on le voit sur les deux dernières saisons. Donc quoi qu'il arrive défensivement, sauf si Allegri se dit je sors Bonucci, je mets un Gatti, peut-être que ça peut fonctionner, peut-être qu'il peut y avoir une dynamique. Si Kostic arrive et que Alexandro est relégué sur le banc,
mais Kostic vient pour jouer plus haut. Hein.
Kostic, il joue piston à Francfort et il joue très très haut.
Et là, c'est latéral, plutôt, l'idée, c'est plutôt de, s'il repart sur un 4-2-3-1 ou un 4-4-2 hybride, on verra un peu, mais l'idée, c'est de le faire jouer plus haut, Kostic. Hein, donc malheureusement.
De toute façon, on la connaît, la recette, Johan, c'est que ça va défendre très très bas et ils vont essayer d'envoyer des longs ballons. Chiesa, il a la force, s'il revient, d'emmener avec sa percussion des ballons très très haut. Di Maria aussi. Le seul problème, c'est que moi, et c'est là où je comprends pas trop, en fait, le fait d'avoir rapatrié Allegri, c'est que t'as recruté des mecs quand même de ballon. Au milieu de terrain, Locatelli s'est révélé avec Sassuolo ou avec la Squadra Azzurra de Mancini qui avait le ballon. Arthur, avec le Barça, la même chose. Di Maria, il peut peut-être le faire, mais à 35 ans, essayer de faire des transitions sur 70 mètres, pas sûr qu'il ait la caisse pour le faire pendant 38 journées. Voilà, aujourd'hui, Vlahovic, il a besoin de ballon dans la surface de réparation. Donc, j'ai l'impression que les joueurs ne vont pas quand même avec la philosophie de jeu du coach. Maintenant, ça peut peut-être fonctionner. En Serie A,
personne va avec l'affiche.
Oui, c'est ça. Mais peut-être qu'en Serie A, ça va être très solide. Il va attendre très très bas. Et puis il va miser sur les individualités. De toute façon, on se rappelle de l'interview, enfin de l'échange après le match contre l'Inter mythique, le 3-2 là, avec le but d'Higuain, où il a dit de toute façon lui, offensivement, il laisse totale liberté et carte blanche à ses individualités. Et pour lui, le football, c'est comme le basket. Donc en fait, donc on va voir. Hein, à Vlahovic de jouer, à Chiesa de jouer, à Di Maria de jouer et à faire des miracles. De toute façon, il va falloir que Antoine, tu te résous à ça cette saison.
Hein. D'ailleurs, on va suivre juste ça. Deux secondes. C'est une comparaison éclatée avec le basket.
Ah oui,
parce
non,
que le basket, ouais. Il y a des écrans, des systèmes, etc. Même offensivement.
Ouais, bah, ouais. Après, c'est Max Lagan. Il a fait un livre sur ça, donc on va l'écouter.
Plutôt la notion de clutch player. Merci beaucoup Antoine de nous avoir appelé au 32-16. Walid, on va te laisser redescendre un peu parce que là, t'es bien monté en colère contre Allegri. Donc tu vas boire un petit coup d'eau. On revient dans un instant. On va parler, évidemment, on va continuer à parler de Bundesliga, de Première Ligue, de Serie A et aussi de Ligue 2. A tout de suite.
RMC, l'Afterfoot, Timothée Mémon.
On est de retour dans l'After, on continue avec nos drôles de dames à faire le tour d'Europe, mais on va aussi aller en Normandie, à Caen, puisqu'il y a un match de Ligue 2 entre Caen et Metz, et c'est Christophe Lécuyer qui va nous le faire vivre. Salut Christophe.
Salut, bonsoir à toutes et à tous.
Le coup d'envoi imminent entre deux formations qui visent très clairement l'accession en fin de saison.
Ouais, deux formations qui ont très bien débuté leur saison d'ailleurs, puisque le FC Metz est bien étrié à Amiens le week-end dernier sur le score de 3-0. Dans le même temps, Caen est allé s'imposer à Nîmes 1-0. Caen qui n'a perdu que 3 matchs à domicile contre une équipe reléguée. Ça fait partie des stats que l'on retiendra avant le coup d'envoi de cette rencontre. On verra évidemment si elle se confirme ce soir ou non. Très belle affluence hein, ce soir messieurs à Dornano, quasiment 16 000 supporters. C'est vraiment une très très belle affluence pour un match de Ligue 2, mais c'est vrai que c'est l'été, il fait beau en Normandie comme d'habitude, et c'est une belle affiche pour cette rencontre ce soir, dont le coup d'envoi sera donné dans une poignée de secondes.
Tu nous appelles évidemment s'il se passe quelque chose dans cette rencontre. On continue à faire le tour d'Europe et à s'intéresser à ce qui s'est passé sur les différentes pelouses. Je voulais rester encore un petit peu en Italie. On vient de parler sous un prisme assez négatif de la Juve. Il y a quand même des bonnes nouvelles en Italie avec une ferveur renouvelée pour le foot italien. On avait pris l'habitude dans les années 2000 notamment de voir des stades remplis à 30-40%, et là Johan, il y a de nouveau une ferveur.
Ouais, parce qu'il y a des équipes des clubs qui ont installé des projets assez séduisants. Je pense à Milan maintenant, je pense à l'Inter où c'est toujours assez intéressant, la Roma de Mourinho évidemment. Alors, c'est un projet assez court-termiste, finalement, même s'il y a des jeunes joueurs qu'il faut continuer à faire progresser. Mais on a eu des premiers chiffres d'abonnement. Alors, on n'a pas tous les clubs. Naples n'a pas communiqué encore pour l'instant, par exemple. Mais on a 40 000 personnes abonnées, un peu plus de 40 000 à l'Inter à Milan. On a presque 40 000 à la Roma, 100% des abonnements vendus. On a plus de 20 000 à Florence et à la Lazio, malgré le discours de Lotito. Je ne sais pas si vous avez suivi, mais Claudio Lotito, ce génie de président de la Lazio, qui avait quand même, il y a quelques semaines, dit « Ouais, bah regardez, à la Roma, eux, ils s'abonnent, nous, on a 8000 abonnés, qu'est-ce que nos supporters, ils attendent, etc. » Donc, ça passe toujours très bien, les comparaisons avec le rival.
Ça a dû plaire,
c'est,
ouais.
C'est toujours très, très intelligent.
Est-ce que ça a eu un effet ?
Je pense pas, non. Je pense que les supporters ont un tel point de désaccord avec Lotito que quoi qu'ils puissent dire, finalement, ça ne les atteint pas trop. Et puis on a 20 000 personnes à Lecce, par exemple, qui est promu en Serie A. Donc il commence à y avoir des stades toujours aussi vétustes, ça bouge pas évidemment, mais un vrai retour du public dans les stades, et ça c'est plutôt sympa. Et pour rejoindre ce qu'on disait juste avant sur la Juve, une des déceptions en termes d'abonnement, c'est la Juve. Un peu plus de 22 000 personnes.
Ah oui, c'est faible.
Vous donner une idée, c'est 70% par rapport à la dernière année sans Covid, donc 2019-2020.
Oui.
Donc,
puis 22 000 comparativement aux 40 000 à l'Inter et à Milan, effectivement, c'est.
Ouais, ou même ils doivent être à 37, je crois, ou 36 ou 37 à la Roma. C'est pas énorme, mais bon, peut-être que ça n'a rien à voir avec le jeu proposé par Max Allegri, peut-être que. Agnelli verra la nouvelle, ou peut-être pas, parce que ça se trouve, Agnelli, il est encore en train de nous pondre des études pour nous montrer que les jeunes s'intéressent plus au foot, hein. On sait pas, hein.
Tu vois une autre raison que les projets dont tu as parlé pour expliquer ce regain d'amour, en fait.
Il faut prendre au cas par cas, quasiment. C'est-à-dire que Lecce, il y a l'enthousiasme d'une montée. On sait que c'est un peuple assez chaud et qu'ils ont vraiment souffert d'être en série B. Et globalement, quand ils sont en série A, c'est toujours bien rempli. Le Via del Mar, c'est un des plus vétuste stade d'Italie. Hein. Honnêtement, ça vaut le détour. Hein. Juste pour le côté historique, archéologique, quasiment, ça vaut vraiment le tour. Mais c'est plutôt génial. L'Inter, c'est évidemment parce qu'il y a il y a l'enthousiasme aussi qui est revenu avec le titre avec Conte. L'année dernière, il y a eu des premières bonnes performances en Ligue des Champions. On rajoute des Lukaku qui revient là, donc il y a quand même une équipe très sympa. La Roma, c'est l'enthousiasme Mourinho, Conference League, Dybala, Wijnaldum, etc., etc. Milan, ils sont champions en titre, donc c'est lié aussi au résultat. On va pas se mentir, il y a pas que les projets, il y a aussi le fait d'être dans une bonne passe ou une mauvaise passe.
La dynamique.
San Siro, quand Milan jouait avec Bilia, Bertolacci,
c'était différent,
Laxalt,
on va dire.
Ouais. Et compagnie, il y avait un peu moins de monde, mais c'est logique en fait. Donc il y a évidemment une part de clubs qui performent bien et qui sont de retour au plus haut niveau. Je pense aux clubs milanais qui ont vraiment galéré pendant des années et des années. Et puis il y a des projets type Roma où c'est vraiment l'enthousiasme de dingue parce que c'est un peuple qui est comme ça et que
mais c'est une bonne chose ça pour le championnat.
Ouais,
c'est une bonne
sûr.
Chose que les trois clubs comme la Roma et les 2000 ans soient sur une très belle dynamique, ouais. Et qu'il y ait un engouement et qu'il se passe quelque chose, qu'il y ait un frémissement.
Mais de toute façon pour la Serie A, il faut que tes trois clubs du Nord ils soient forts. C'est évident parce que OK, en Europe, la Roma fait de bonnes choses, hein. La Roma, c'est la deuxième équipe au ranking UEFA italienne sur les cinq dernières saisons. Ils font quand même deux demi-finales de Coupe d'Europe et une finale donc ils gagnent, ouais. En Conference League.
Celle quand ils sortent le Barça et qu'ils font contre Liverpool,
c'est ça, contre
notamment.
Liverpool, et l'autre c'est la demi-finale contre United en Europa League, ouais. Où ils prennent 6-1, 6-2, ouais, c'est ça.
Plus la Conference League l'année dernière.
C'est ça, mais c'est sympa la Roma, mais bon, ils ont gagné la Conference League, etc. Mais ceux qui sont en capacité de gagner des champions, dans l'histoire et de manière plus générale en Italie, c'est les trois clubs du Nord et personne d'autre. Donc il faut des clubs forts, ça c'est clair. Et il faut des clubs où il y a de l'enthousiasme. Et même pour la télé, c'est tout bête, hein. Mais on sait déjà que c'est extrêmement mal filmé, que les stades sont vétustes, que les pelouses sont pourries. Donc si en plus il y a des stades vides, à la télé, c'est pas bon. C'est pas bon pour vendre les droits à l'international. C'est pas bon pour même vendre des droits au niveau national. Et là, d'avoir des stades qui vont être pleins, colorés, etc. Je peux vous dire que DAZN, hier, ils étaient bien contents de diffuser le dernier match amical de la Roma avec 65 000 personnes et avec la présentation de l'équipe.
Ouais. Alors, on va rester sur le thème des supporters. On va peut-être retrouver Polo. Polo, il y avait un derby berlinois qui aurait pu être chaud, qui finalement s'est passé dans de bonnes conditions, entre l'Union Berlin et le Hertha. Le Hertha qui, on le rappelle, est passé aux mains d'un président, enfin qui a été élu en tout cas, qui a été ultra dans sa jeunesse. Le derby s'est bien passé. C'était d'ailleurs plutôt un match intéressant.
Alors, l'année dernière, je vous ai quitté lorsqu'on avait fait une émission spéciale sur le Cave Bernstein, donc le nouveau président ancien ultra du Hertha Berlin, en me disant, et j'avais parlé du calendrier du Hertha qui était démentiel pour le début de saison 2022-23, avec une première journée de Bundesliga avec le derby contre l'Union Berlin. C'était très dangereux puisqu'on ne savait pas comment les ultras berlinois et les ultras berlinois en particulier et les ultras de l'Allemagne en général allaient réagir lors de cette première journée. Et c'est étrange parce que j'ai le sentiment qu'il y a des consignes qui sont passées tellement ce derby berlinois a été calme déjà parce que l'Union Berlin, mais ça c'est pour ma glorieuse personnelle, a dominé de la tête et des épaules le derby.
On rappelle que tu es quand même toi aussi d'une certaine manière la tête de l'Union Berlin.
Ouais, je suis une petite part, je suis une cellule parmi d'autres de l'Union Berlin. Et c'est vrai que c'était impressionnant parce que les supporters berlinois du Hertha qui sont venus à l'Alte Fochterei étaient extrêmement calmes. Évidemment, il y a eu quelques bingalos, quelques petites choses comme ça, mais
les feux de bengale plutôt.
Mais c'était les feux de bengale, pardon. Oui, je disais ça en allemand. Et et c'était pas
français, pas bien c'est dangereux, pas tout à fait.
Oui, tout à fait. J'étais en train de réaliser ce que je venais de dire en direct. Et là, il n'y avait pas eu d'envahissement de terrain, etc. Ça a été d'un calme olympien, si tu veux, ce qui était surprenant. Et je me demande même s'il n'y a pas des consignes qui ont été passées, parce que tu imagines bien qu'un nouveau président de club élu par les mid-leaders, les membres de l'association du Hertha Berlin pour 2 ans, et on commence par un derby où lui, d'ailleurs, à son époque, avait été interdit de stade parce qu'il avait fait quelques petites choses dans les travées de l'Olympia Stadium notamment, et ben tu te rends compte que ça a été calme. Donc je me demande s'il n'y a pas des consignes qui ont été passées entre le président du Hertha et les associations de supporters du Hertha pour que ça se passe très très bien. Malheureusement, le Hertha a les mêmes problèmes que l'année dernière. Je parlais du projet du Big City Club l'année dernière, je rigolais un peu en disant que c'était le Big City Club tellement l'argent, ils ont fait n'importe quoi. Et si tu veux, autant le derby est important parce que c'est la quatrième victoire à la suite de l'Union de Berlin, dont la troisième en Bundesliga contre l'Hertha. Mais c'est quand même dramatique quand on voit la puissance du Hertha par rapport au petit Union de Berlin de faire la prestation qu'ils ont faite samedi à 15h30. Donc voilà, c'est passé. On va dire que c'est calme parce qu'on savait pas ce qui aurait pu se passer dans les tribunes. Donc ça, c'est une bonne chose. Maintenant, sportivement parlant, Freddy Bobic, qui était invité d'ailleurs de l'émission d'Opel Pass ce dimanche, eh ben, il a du boulot et je pense que le Hertha Berlin est un véritable candidat à la relégation cette année, c'est-à-dire que là, ils ont été éliminés en Coupe d'Allemagne contre une équipe de deuxième division, ils se prennent une raclée, même s'il n'y a que 3-1, mais en fait, alors, je vous cite un exemple, je crois que c'est dans la Zut Deutsche, il disait, c'est dommage qu'on soit dans le football, parce que si on était à la boxe, l'arbitre a la possibilité d'arrêter le match pour une question de chaos technique, tu vois, parce qu'au bout d'une heure de jeu, et là, on a été forcé de tenir 30 minutes en plus, donc évidemment, le Hertha a réduit le score à 3-1. Notez le premier but de Zibaccio aussi, l'Amérique qui était passé par Rennes notamment pour l'Union de Berlin. J'ai très très peur quand même que pour le Hertha Berlin la saison va être assez dramatique. Ils ont un calendrier très très difficile.
Polo, tu parles de consignes qui auraient été passées. Est-ce qu'on n'est pas aussi en droit de penser que quand on a des gens, des tribunes au plus haut niveau des clubs, ça peut aussi peut-être aider les choses à bien se passer. Ça peut déjà peut-être aider les consignes à passer, tout simplement.
On est d'accord. Mais le problème, c'est qu'on savait pas du tout ce qui allait se passer. C'est-à-dire que l'année dernière, il faut bien se rendre compte, l'élection.
Kevertine, il sait bien qu'il peut pas arriver et essuyer une bordée d'ultra déchaînée. Et donc forcément, tu as raison. Il a peut-être fait passer des consignes, mais c'est peut-être bon signe. C'est peut-être un bon système que d'intégrer les ultras dans le au niveau des clubs.
Tout à fait, mais il faut bien comprendre que l'élection de Kai Bernstein a été quand même une énorme surprise. Au Hertha Berlin, il n'était pas le favori. Il se fait qu'il y a des personnes, il y a beaucoup de politique, évidemment, lorsque vous êtes dans un système associatif. Et vous imaginez bien, parce que la plupart, on avait parlé en privé il y a un peu plus d'un an, mon cher Timothée, sur ces questions-là. En général, tu sais très bien que c'est des grandes familles ou des grandes puissances financières, économiques qui se retrouvent à la tête des clubs, pas forcément avec des grands moyens financiers, mais ils représentent la région. Ce sont des gens qui sont importants et ça peut être, ils sont notamment souvent membres du CDU ou du SPD, donc de la gauche et de la droite très classique allemande. Et là, il arrive à ce moment-là, et si tu veux, c'est qu'au-delà de la victoire de Kai Bernstein et du président ultra, c'est la défaite de l'establishment et de ce qui avait le modèle, on va dire, allemand, où on devait négocier avec la Ligue allemande, etc., où il fallait voir les droits télé. Or, on ne pouvait pas avoir un bazar organisé, si tu veux, parce que la Ligue aurait évidemment réagi, parce qu'évidemment, les diffuseurs comme Sky et DAZN n'auraient pas été contents, etc. Alors, en l'occurrence, c'est Sky pour le samedi et pas DAZN, mais c'est vraiment important, si tu veux, que le Hertha Berlin montre qu'on peut avoir un président ultra, mais qu'il soit aussi aux responsabilités, mais parce que là, il est de l'autre côté de la barrière. Il peut plus râler. Il est pas dans une logique de râler. Il doit gérer un club et on sait que gérer un club, ça donne souvent la migraine, quoi. Bah, vu les problèmes qu'on a. Donc, comme le club ne va pas bien et que c'est le club de la capitale, enfin l'Olympiastadion, c'est 75 000 places, faut pas l'oublier non plus, même s'il n'est pas toujours rempli. Mais c'est pas possible que ce soit le bazar et que le club redescende en seconde division. Or, la saison, combien de temps les supporters vont être calmes? Alors l'année dernière, ça a été chaud. Hein. Rappelez-vous, pendant un moment, ils ont forcé les joueurs à enlever leur maillot, à se mettre à genoux devant leur maillot, etc. Il y avait des choses qui ont été un peu choquantes là, ce qui s'est passé à l'Olympiastadion. Donc il y a évidemment tout ce qui se passe dans les tribunes. Et puis Johan parlait des abonnements en Italie. Je rappelle quand même qu'on est dans un pays hors pandémie, évidemment, où chaque année on arrête les campagnes d'abonnement tellement il y a de demandes. C'est-à-dire que c'est quand même quelque chose qui fait partie du spectacle, où le supporter de base fait partie complète du football allemand. Donc si les ultras font le bazar comme c'est en ce moment un peu le cas du côté de Francfort, voire du côté d'Hambourg, et en seconde division, et que ça se passe mal, tu peux faire exploser un club complètement. Tu peux avoir un président finalement qui n'a pas de puissance financière personnelle, parce que rappelons qu'il y a un investisseur, Lars Windhorst, qui est soumis
à la candidature.
Mais oui, on sait que c'est compliqué, toutes ces choses-là. Donc voilà, moi ce que je vois, c'est que sportivement, ça tourne pas. Par contre, le derby s'est très très bien passé, alors que qu'il y avait des risques honnêtement parce que là ça chauffait, que c'est quand même la quatrième victoire de l'Union de Berlin, donc en gros c'est le petit pousset qui l'emporte contre le gros balèze, hein. faut être parfaitement conscient de ça, mais ça s'est bien passé, donc ok, la première journée est passée, mais je rappelle que le calendrier de Hertha Berlin, de mémoire, ils doivent recevoir bientôt le Borussia Dortmund, ils vont à Mönchengladbach, ils reçoivent Leverkusen, enfin ça va être très très dur pour ce début de saison.
Ouais, ça va être chaud, en tout cas on a envie de suivre ce qui va se passer du côté du Hertha, sur et en dehors du terrain. Un rapide tour par Dornano pour le match entre Caen et Metz. Il y a une histoire de pigeon.
C'est incroyable. 13 minutes de jeu à Dornano, 0-0. Effectivement, le jeu a été arrêté à quelques instants. C'est assez surréaliste parce qu'il y avait un pigeon dans la surface de but d'Alexandre Oukidja. L'arbitre a dû arrêter temporairement la partie pour qu'on évacue le pigeon de la pelouse. Pigeon qui était quelque peu sonné,
oui,
et qui a pu
sonné.
Reprendre sa place au pied du Malherbe Normandico.
J'ai l'impression que Mandrea était pas loin de lui marcher dessus, il me semble-t-il. Oukidja qui était pas loin de lui marcher dessus.
On a failli assister à un drame, effectivement.
Toujours 0-0 après 13 minutes de jeu. L'after revient pour la deuxième heure avec les drôles de dames.
RMC jusqu'à minuit.
L'after foot.